This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'EFC Stream Team, je suis Maxime Dupuis. Ça fait déjà près d'un mois, oui un mois, la dernière fois c'était le 22 avril. Depuis, pas d'émission. J'ai même cru que j'avais été mis au placard et que la porte avait été bouclée à double tour. Et puis non, finalement, me revoilà avec Martin et je dois avouer que c'est un grand plaisir.
Bah oui, partagez Maxime, heureux de te retrouver parce que les autres c'était quand même des sacrés
balles. Ouais, on va en parler. durant mon absence, j'ai trouvé l'émission assez changée parce que j'ai entendu l'un des présentateurs dont je ne citerai pas le nom, je l'ai entendu dire au sujet de Liverpool et de Jurgen Klopp, qu'il casait toutes les coches.
Ah, mais ça, c'est le problème de le donner à des amateurs, en fait, l'FC Stream Team.
Ah, il invente des expressions qui ne sont pas rentrées dans le dictionnaire et dont on ne se souviendra pas, à part moi. Mais en tout cas, sachez qu'il ne cochait pas toutes les cases, il casait toutes les coches, c'est dur à dire. Mais il a réussi à le dire et j'ai envie de dire bravo Adrien.
T'as dit que tu ne le citerais pas.
En tout cas, je vais quand même faire court sur cette intro parce que j'ai reçu et lu des messages qui se plaignaient de la longueur de ces introductions. Alors, je veux dire que je suis assez déçu. Je pensais que vous étiez tous hyper intéressés par ce qu'on disait, que vous partagiez comme nous l'amour de la bonne bouffe, le spectre des soucis gastriques comme Martin. Eh ben non, pas tant que ça. Mais comme on vous adore et qu'on écoute tout ce que vous nous dites ou suggérez, je vais m'arrêter là. D'autant qu'il y a pas mal de choses à dire cette semaine en termes d'actu footballistique.
C'est vrai. Et juste, la semaine prochaine, je ferai une petite intro avec les commentaires Apple Podcast. Qu'ils sont quand même assez drôles. Et donc, on en parlera la semaine prochaine. Gros programme aujourd'hui, Maxime. Gros programme. Pourquoi ? D'abord et avant tout, parce que le plus gros joueur français du moment va annoncer où il jouera la saison prochaine dans 24 ou 48 heures.
Normalement,
et qu'aujourd'hui, on est incapable de dire où ce sera. Donc ça, c'est quand même formidable. Et ce sera le premier sujet de ce FC Stream Team. Mbappé, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, vendredi, à 13h30, à l'heure...
Ouais, il est important de dire l'heure.
Voilà, où on enregistre ce podcast. Est-ce que vraiment aujourd'hui, c'est du 50-50 entre le PSG et le Real ? Ce sera la première partie de cette émission. Ensuite, de quoi on parlera, Maxime ?
On va parler à 13h30 ce même jour, ce vendredi, d'Olivier Giroud, qui là, pour le coup, je pense que Didier Deschamps, lui, sa décision est assez claire.
Ouais, elle est prise
depuis
longtemps.
Elle était claire avant mars. Mars avait un peu rebattu les cartes parce qu'on avait revu, souvenez-vous, Olivier Giroud. 2 buts, 2 victoires pour l'équipe de France. On se disait, bon, c'est reparti comme un 14. Eh bien, Olivier Giroud, il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps. Et Didier Deschamps qui disait, c'est pas Karim ou Giroud, c'est un peu plus complexe que ça. J'ai envie de dire que non, c'est pas plus complexe que ça. C'est Karim ou Giroud. Donc la question est simple. Est-ce que Giroud, cette fois, c'est fini. Est-ce qu'on a encore une chance de voir Giroud au Qatar ? Ce sera le deuxième sujet de l'émission.
Et on terminera avec l'Olympique de Marseille qui joue sa qualification en Ligue des Champions samedi lors de la dernière journée de championnat. Et on placera le curseur sur Jorge Sampaoli. Est-ce que c'est son dernier tango à Marseille ? Est-ce qu'on reverra le technicien argentin à Marseille à la rentrée ? Est-ce qu'il faut le revoir ? Voilà, parce qu'avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord. Si vous suivez le FC Stream Team, vous savez que Maxime a une petite dent contre l'entraîneur tatoué. Donc, on en parlera.
Alors que toi, tu aimes bien ces tatouages. Et moi, je sais depuis la Coupe du Monde 2018.
En fait, moi, j'ai un problème. Alors, les gens disent qu'ils n'aiment pas trop les intros, mais je vais quand même parler de ça. C'est que moi, j'aurais aimé avoir des tatouages, mais comme je suis fait comme une crevette. Non, mais je fais comme une crevette,
c'est
Maxime.
C'est trop tard.
Mais non, c'est pas possible.
Là, comme ça. Là.
Non. Alors oui, mon cou, pour le coup, il y a de la place. Voilà. Mais non, je fais comme une crevette. Donc, il faut être un peu costaud, un peu balèze quand même pour avoir des tatouages.
Une crevette.
Ouais, une crevette qui a bien mangé.
Non, c'est... Comment ça s'appelle
Une gambasse,
voilà.
Une bonne grosse gambasse, exactement.
Tu vois, là, c'est le mauvais exemple. Je voulais faire une blague, j'avais pas le mot. Ouais. J'ai dit, je vais quand même y aller, parce que je voulais quand même qu'on place la gambasse.
Et là, où on voit qu'on fait l'émission depuis longtemps, c'est que je suis venu à ton secours.
En moto vanant.
Mais ça, il y a aucun problème là-dessus. On va démarrer donc avec Kylian Mbappé. On va vous faire un petit tour du propriétaire, déjà, de tout ce qui se dit depuis ce vendredi matin. Déjà, jeudi soir, à peu près toute la presse française a annoncé que Kylian Mbappé annoncerait sa décision samedi ou dimanche. Voilà où on en est. Et ce vendredi, la presse espagnole a étalé un peu ses incertitudes. Flashback très très rapide. Lundi, Marca annonçait que c'était terminé, que Mbappé porterait les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Ce vendredi, le ton a complètement changé. Et dans les Même colonne de Marca, on peut lire que l'inquiétude grandit au sein du conseil d'administration du Real Madrid. Le champion du monde n'a pas signé de contrat avec le Real Madrid. Il avait donné un accord oral, mais une dernière offensive du Paris Saint-Germain aujourd'hui fait vraiment douter le Real Madrid. De fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Sky Italia s'est avancé en disant que le choix d'Mbappé, pour le coup, était quasiment fait et que désormais Mbappé pencherait vers une prolongation du côté du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, les deux options aujourd'hui lui conviennent. Ce qu'on lui propose à Madrid, ça lui va. Ce qu'on lui propose au Paris Saint-Germain, ça lui va. Maxime, est-ce qu'à 24, 48 heures, peut-être moins même, de la décision de ce qu'il va nous dire, est-ce que c'est vraiment du 50-50 entre Paris et le Real ?
J'ai l'impression d'être avant le premier tour de l'élection présidentielle où plus ça s'approche, plus on réduit l'écart, où on s'amuse entre guillemets à se faire peur dans un sens ou dans l'autre. On pourrait parler du journalisme sportif là-dessus et ce que ça dit de nous. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce ne serait pas forcément positif. Mais voilà. Mais la vérité, est-ce qu'il peut être encore à 50-50 à ce moment précis ? Honnêtement, je ne pense pas. Il n'y a qu'à l'écouter au trophée UNFP où il disait « j'ai pris ma décision ». Il avait rajouté pratiquement, mais on sentait qu'il savait, on sentait qu'il avait calé le moment où il allait l'annoncer. A priori, ce serait dimanche, mais en tout cas, ce serait avant l'équipe de France. Moi, je pense qu'il n'est pas à 50-50. Je pense que lui le sait. Mais le problème du journalisme et des journalistes globalement en France ou en Espagne, c'est qu'il est le seul à le savoir. Voilà, je développerai là-dessus un peu plus tard. Je pense que le vrai problème est là et qu'il faut feuilletonner, mais je pense que son choix, au moins à 90%, il est fait pour moi.
Non, ce qui est intéressant, en tout cas, d'observer, c'est comment le vent semble avoir tourné ce vendredi, comment tout ce qui nous vient d'Espagne nous dessine finalement une grosse incertitude, alors que jusqu'ici et quasiment depuis l'été dernier, il y avait assez peu de mystère sur les intentions de Kylian Mbappé. En tout cas, si on en croyait Marca, AS et tout et toute la presse espagnole, c'est-à-dire que le curseur était très clairement pointé vers le Real Madrid. A priori, il y a des sommes astronomiques, pharaoniques, un contrat en béton et notamment des droits d'image qu'il récupérerait à 100% du côté de Paris, qui aurait pu faire repencher la balance du côté du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et déjà une des forces du PSG, c'est d'avoir instillé le doute. C'est-à-dire que ce doute-là, qui n'apparaissait plus ou quasiment plus depuis des mois et des mois, et ben ce doute-là réapparaît quand, au dernier moment, dans la dernière ligne droite, ça déjà c'est fort du côté du Paris Saint-Germain, alors même qu'on le rappelle, en juillet et en août dernier, le choix de Mbappé était fait et il s'appelait le Real Madrid.
Il y avait cette phrase-là, alors évidemment, en juillet, août dernier, où il dit clairement qu'il veut partir, on sait que c'est le Real parce que pour recontextualiser, oui, le Real c'est le club de ses rêves, c'est un rêve d'enfant. C'était Ronaldo, etc. Regardez cette photo qu'on revoit régulièrement avec lui, gamin, avec Ronaldo. Le Real, c'est le niveau au-dessus médiatique, prestigieux, culturel, etc. Donc, c'est la suite logique, voilà. Moi, j'avais plus trop de doutes au moment où il expliquait notamment cette phrase qu'il faut ressortir du mois d'octobre où il dit « Quand un président vous dit que tu ne partiras pas libre, ça fait peur ». Donc, de re-signer, c'est potentiellement de se mettre sous la coupe du président, surtout s'il n'a pas les garanties. Maintenant, je pense que, je ne sais pas si c'est le PSG qui fait bien le boulot d'instiller le doute, ou le Real, ou que la presse espagnole a eu quelqu'un au Real qui dit « il nous a rien dit ». Sa grande force, finalement, c'est lui, parce qu'il ne dit rien. Et ça, c'est un cas à part. Voilà. Il fait tout simplement ce que font, il suit le modèle, je ne sais pas comment il va l'annoncer, mais il suit le modèle des très grands joueurs NBA, tout simplement. Il aime ça, il sait comment ça fonctionne. Souvenez-vous LeBron James quand il part à Miami, souvenez-vous LeBron James quand il revient à Cleveland, jusqu'à la dernière seconde, personne ne sait ce qu'il va faire. Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas. Et si vous voulez que quelque chose fuite, vous le dites à quelqu'un. Voilà. Je pense en gros que c'est derrière son entourage proche qui sait ce qu'il va faire, si tant est qu'il soit 100% certain, mais le reste, ça ne fuite pas. Et il n'y a qu'à voir ce qu'on lit depuis, moi je fais confiance aussi à la presse française, il n'y a personne qui se mouille là-dessus. Pourquoi ? Enfin, il y a eu des exceptions, mais parce que, en gros, il ne laisse rien transpirer. Il veut maîtriser de A à Z sa communication. C'est LeBron James, c'est Kevin Durant, voilà, tout simplement.
Donc, tu es en train de nous dire qu'il faut rester très prudent avec tout ce qui sort depuis
Oui,
depuis
évidemment, parce que là, tu parlais des sommes. Oui, dans 3 jours, il touche 1 milliard. Mm. Non, je veux dire, c'est la surenchère. Et après, il faut toujours... Alors, je ne suis pas en train de dénigrer ce qui a sorti sur la presse espagnole, notamment, parce qu'il y a sûrement des gens qui, au Real, ont intérêt à faire sortir des choses.
Voilà. Oui, qui peuvent paniquer du fait de ce qu'il a annoncé hier. Et que finalement, ce dont on est certain, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il n'a donné son feu vert ni au Paris Saint-Germain, ni au Real Madrid.
Et donc forcément, qui veut maîtriser son calendrier jusqu'au
bout. Voilà, et qui veut maîtriser. Alors peut-être qu'il donnera quand même, la primeur de sa décision, on ose l'espérer, à son futur employeur et aujourd'hui à son employeur actuel. Peut-être quand même qu'on se dit que Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi ne vont pas apprendre en même temps que nous la décision de Kylian Mbappé. Mais ce qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, personne au Real et au PSG n'est au courant. Le Real était hyper confiant dans ce dossier. Et si, comment il faut interpréter la vague de panique qui saisit l'Espagne, c'est qu'ils étaient sûrs de leur fait et qu'ils n'ont plus de nouvelles. Mais au final, Paris n'a pas plus de nouvelles. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il faut sans doute pas surinterpréter. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, bien malin est celui qui a toutes les cartes en main. Il n'y en a qu'un. Hein, et il est derrière moi. Alors, si vous écoutez le podcast, vous ne le voyez pas, mais c'est Kylian Mbappé.
Ouais,
c'est une photo, hein, il n'est pas vraiment là.
C'est une forme de c'est une forme de réussite, au moins, sur ça. Alors, il y aura à dire sur sa communication. Il y en a des gens qui voudraient qu'il mette fin au suspense plutôt. Mais quel intérêt il aurait à le faire?
Voilà, moi, ça, je trouve qu'au contraire, il respecte le calendrier sportif.
Exactement, voilà. Exactement. Ça, on peut lui reprocher plein de choses, mais pas ça.
Alors, qu'il continue ou qu'il s'en aille, peu importe à la limite, il ne pollue pas l'actualité.
Parce que
du Paris Saint-Germain, des trophées UNFP, 38e journée, c'est terminé. On va dire, allez, 1h, 2h, 24h, 12h après, il prend sa décision. Voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux à ce niveau-là.
On en avait parlé, ça aurait pu être un des sujets de l'émission, c'est dire, et pourquoi pas, et pourquoi ne peut-il pas l'annoncer au Parc des Princes, tout simplement. Pourquoi? Parce que demain soir, samedi soir, PSG Metz, dernière journée, le PSG est déjà champion, mais c'est la célébration du titre du Paris Saint-Germain, célébration qui a déjà sans doute un peu de plomb dans l'aile. Imaginez, il y a 30 ans, Jean-Pierre Papin annonce son départ au milieu de la pelouse du dernier match de la saison au Vélodrome. Il est acclamé. Cette situation, qu'est-ce qu'elle aurait donné avec Kylian Mbappé? Il y a plusieurs solutions. Un, il est acclamé par le public qui dit « t'as fait ton temps ici, t'as fait tout ce que tu pouvais, c'est fantastique ». Deux, il est sifflé parce que certains se disent « bah oui, mais non, enfin, nous on n'accepte pas que tu t'en ailles gratuitement pour le Real Madrid ». Et la troisième solution, qui pour moi est la plus plausible, c'est que ce soit un mix entre « il est applaudi », mais que les supporters dégomment la direction, un peu dans le sens de ce qu'ils font depuis PSG Bordeaux. Parce que de dire « c'est de votre faute s'il s'en va aujourd'hui », et finalement, ça donnerait quoi? Une fête de titre gâchée. Donc, il a
il y a une quatrième
solution. Mais c'est pour
ça que… La quatrième solution, c'est qu'il reste et qu'il l'annonce au milieu du terrain après la célébration du titre. Et là, c'est le feu d'artifice total à Paris.
C'est le feu d'artifice total. Mais peut-être que derrière ça, il y a à se dire « si je l'annonce là, je vais complètement squeezer la fête du titre ». Et c'est vrai qu'il a un respect là-dessus, on va dire. Comme pour les trophées UNFP, il l'a dit, je ne fais pas deux fois la même erreur de parler de mes responsabilités à venir que je veux. Là, on parle de chaque chose en son temps. Peut-être aussi ça lui plaît aussi, peut-être, d'attendre ça, tout simplement. Voilà. Mais encore une fois, c'est compliqué. Il maîtrise de A à Z. A priori, on saura dimanche. Moi, la question que je pose, c'est…
Pose-moi cette question.
En gros, ça reviendrait faire ça en téléfoot sur TF1, la chaîne la plus puissante de France et qui doit toujours être la plus puissante d'Europe, je pense, de calquer ce qu'avait fait LeBron James sur la décision. Et on sait que ça passe moyennement. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire ça, toi?
C'est-à-dire à téléfoot?
Prendre téléfoot et dire, bah écoute, je vais annoncer ce que je fais ici.
Alors déjà, il faut expliquer pourquoi téléfoot. Parce qu'il est très proche d'un journaliste de téléfoot qui s'appelle Julien Ménard, qui le suit depuis très longtemps. Et toutes les informations de Julien Ménard sur Kylian Mbappé sont bonnes. Il est proche de l'entourage. Donc il y a aussi ce côté-là. Annoncer ça à téléfoot, moi, je pense que l'idéal, en fait, tout dépend de la décision. L'idéal, s'il reste au Paris Saint-Germain, pour moi, l'idéal, ça aurait été de l'annoncer, de prendre le micro, d'aller au Parc des Princes et de l'annoncer devant son public, de l'annoncer au sein de son équipe, de l'annoncer avec l'état-major qui est dans les tribunes, de l'annoncer avec les gamins qui le regardent et qui achètent ses maillots. Pour moi, c'est là l'idéal. Annoncer son départ aujourd'hui au Parc des Princes, samedi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le suspense est entier. L'issue ne faisait aucun doute. Si tout le monde savait qu'il quittait le Paris Saint-Germain, moi, ça ne m'aurait pas choqué qu'à la fin du match, le titre est fêté et que Mbappé fasse un petit tour d'honneur et dise merci à tous. Et je pense que ça aurait pu bien se passer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un suspense. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et du coup, il y aurait trop de déception du côté du Paris Saint-Germain. Donc, s'il s'en va pour aller au Real Madrid, téléfoot me semble une option. T'aimerais qu'il l'annonce sur ses réseaux sociaux.
J'étais son conseiller, je lui dirais ne donne pas l'impression de te réjouir de partir.
Ou d'en faire un événement.
Typiquement, le cas LeBron James, c'est un cas d'école qui n'a pas été répercuté depuis, à part par Griezmann. Mais Griezmann, on me dit depuis quelques heures sur les réseaux sociaux que c'est pareil. Non, c'est pas pareil, Griezmann. On reproche à Griezmann d'avoir fait ça un an après, quand il décide de partir, parce qu'il se contredit. le côté j'annonce en grande pompe que faut jamais oublier que ça va briser des cœurs, simplement, des supporters, des gamins, tout ça, et de le montrer un peu show-off, même s'il fait sobrement, je suis pas sûr. Moi, je serais lui, je ferais comme une lettre ouverte ou un truc, une grande lettre ouverte sur les réseaux sociaux, où je m'explique, j'en rajoute pas, en catimini.
Un petit émoji cœur.
Évidemment, s'il part. Et après, la grande, j'allais dire, le grand déroulé de la grande fête, etc., ce serait dans son prochain club. Mais moi, honnêtement, si je reste, je l'annonce au Parc des Princes, si je pars, je fais... De manière neutre pour montrer que ce club me tient à cœur et que j'ai pas envie d'en faire un événement mon départ. Parce que pour montrer un peu que j'ai pas envie de donner l'impression que je suis plus important que le club qui m'a accueilli pendant 5 ans.
Ce qui est dingue, c'est qu'en tout cas, il y a un doute. Et ça, si on nous l'avait dit à 24, 48 heures de son choix, de la révélation, si on nous avait dit qu'il y avait un doute, franchement.
Mais si on peut pousser quand même ce sujet, c'est se pousser sur les raisons qu'il ferait rester à Paris aussi.
Moi, elles me paraissent claires et évidentes. Elles sont difficiles à hiérarchiser, mais évidemment, il y a l'aspect financier. C'est-à-dire que Paris, aujourd'hui, est capable de lui décrocher la lune. Paris est capable de lui dérouler le tapis rouge. Paris est capable de lui dire, si tu veux des garanties sportives, tu peux être encore plus dans ce projet-là, être la tête de proue du projet et même décider de certaines choses, comme le choix de l'entraîneur, etc. Donc ça, je pense que ça compte beaucoup pour Kylian Mbappé, au-delà des droits d'image qui aussi est un droit, est une raison fondamentale aussi. Moi, je pense qu'il y a une dernière chose. Alors, c'est peut-être mon côté romantique, Maxime. Effectivement, tu me connais maintenant depuis tant d'années. Mais moi, il y a ce côté-là. C'est aussi offrir la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Et je pense que je vais reprendre l'exemple de Samir Nasri, qui l'expliquait très bien dans un documentaire. Pourquoi il a choisi City plutôt que Manchester United en 2011? Parce que City était au début d'une histoire. City n'avait plus gagné de titre de champion d'Angleterre depuis des années et des années. Il voulait redevenir la première puissance. Et Nasri voulait s'inscrire dans cette histoire-là, faire partir en quelque sorte des pionniers qui ont fait grandir City, plutôt que de rejoindre un club comme Manchester United, où il sera peut-être plus facile de gagner des titres, mais qui reste sur une finale de Ligue des Champions, qui gagnait tout en Angleterre. Être un parmi d'autres, ça intéressait moins qu'être... Après, deux limites à ça, c'est Kylian Mbappé. Donc, au niveau de Nasri, c'est le niveau au-dessus. Et que s'il arrive au Real Madrid, il ne sera pas un parmi d'autres. Ça, c'est une première chose. Mais je reste persuadé qu'offrir... C'était, je pense, son but ultime en arrivant au Paris Saint-Germain. Mbappé n'aime pas les échecs. Et malgré tout, il restera sur un échec.
Oui, mais ce ne sera pas le sien. Donc, c'est ça qui défile. En fait, je pense que s'il reste au PSG, il prend un plus gros risque, tout simplement, que de partir au Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il resterait dans un club. Le côté de dire...
Mais c'est plus audacieux de rester au PSG.
Ah oui, c'est plus audacieux. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais je pense... ça contredirait un peu ce qu'il vend depuis le début de sa carrière. C'est-à-dire de dire, je veux grandir. Il y a des étapes.
Il y a aussi le côté « je veux marquer l'histoire ».
5 ans, oui, mais tu la marques aussi au Real et la dimension. Et ce que je veux dire par là, c'est tu te dis « tu vas rester ». Mais en fait, ce que j'essaye de réfléchir, qu'est-ce qui a changé entre, on va dire, octobre ou juin dernier et maintenant? En positif pour le PSG, c'est compliqué. Alors, comme tu as dit, la part de romantisme de dire « je veux y arriver avec le PSG », ça, c'est tout à fait louable. L'argent, tout simplement, ce serait ça qui serait un moteur. C'est un moteur comme un autre, on en pense ce qu'on en veut.
Et puis, il ne faut pas se dire qu'à ces dimensions-là, l'argent est moins important, non. C'est-à-dire,
Mais si se dire que d'aller au Real, c'est d'être l'un parmi tant d'autres, c'est-à-dire que plus personne n'ira au Real, parce que le Real, c'est 13 Ligue des Champions, ils vont chercher la 14e, c'est-à-dire que tout le monde est un joueur parmi tant d'autres, et qu'il y a eu Ronaldo qui était, en arrivant, potentiellement un joueur parmi tant d'autres. Non, ce n'est pas ça. C'est la structure, j'allais dire, l'ampleur que peut prendre le Real, qui me laisse. J'ai du mal à imaginer qu'il reste au Paris Saint-Germain avec ça. À côté, et dernière chose, on a lu ces derniers jours, potentiellement, il aurait un regard sur à peu près tout. Alors ça...
Ouais, alors sur un départ de Leonardo, sur un départ de Pochettino...
Ça, c'est la pire. Alors honnêtement, le PSG a fait des erreurs, on va dire, depuis des années, on le voit. Mais faire ça, je veux dire, Mbappé est un joueur de football très intelligent, mais il a 23 ans. Et si vous commencez à donner des pouvoirs comme ça à votre joueur, quel qu'il soit, ça dit quoi? C'est-à-dire que la direction au-dessus est incompétente. Ouais. C'est-à-dire qu'il resterait dans un club qui est entouré de gens qui ne sont pas capables de décider et qu'ils ont besoin de lui.
Imaginez le Bayern faire ça, c'est impossible.
Ouais.
Imaginez n'importe quel grand club faire ça, c'est aujourd'hui impossible. Il y a peut-être le FC Barcelone qui a cédé avec Lionel Messi à un moment donné.
Oui, mais c'est normal d'avoir un droit de regard.
Mais on voit ce que ça a donné aussi. Ouais. Ce que ça a donné aussi. C'est pas possible.
Voilà, et au moment où il commence à avoir un ordre de regard et qu'il donne son avis, c'est que ça marche moins bien. Et encore une fois.
Et puis il a 30 ans, il a gagné des Ligues des
Champions. Que l'on consulte un joueur de cette stature-là en parler, ne serait-ce que pour avoir un conseil ou dire qu'est-ce que tu en penses, oui, qu'on ait le côté. Moi, je n'y crois pas, de toute façon, ça. Parce que ça me paraît complètement dingue de dire, bon, bah, limite, demain, il va être directeur sportif, il va jouer en costume. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est aussi, ça fait partie de la réflexion. C'est-à-dire que moi, si demain, je suis joueur, on me dit ça, je me dis, mais ça veut dire qu'au-dessus de moi, il n'y a personne qui est capable de régler ça, alors que ce n'est pas mon boulot. Moi, je marque des buts, je fais des passes décisives, je fais gagner mon équipe, alors qu'au Real, a priori, il aurait ça en plus. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer.
Mais on a hâte de savoir.
Ouais, parce que honnêtement, j'en ai aussi un peu
on en a un peu ras la casquette. On va être honnête, hein, ici dans le FC Stream Team, on en parle, on en a parlé, reparlé. Là, on a hâte que ce feuilleton s'arrête. Et puis qu'on passe à autre chose, et voilà. Puis qu'on se projette sur d'autres choses.
Il y aura à dire, hein, qu'il soit Real ou au PSG, on aura suffisamment à dire.
Exactement. Mais... on a envie de parler des Bleus, notamment, Maxime.
On a envie de parler des Bleus, puisque la liste des matchs du mois de juin a été rendue publique par Didier Deschamps jeudi à 14h, comme d'habitude. On attendait. Vous savez, il procède par poste et par ordre alphabétique. Et quand j'ai entendu Griezmann, comme je suis malin, j'ai compris qu'il n'appellerait pas Giroud. 24 joueurs. Pas d'Olivier Giroud, alors qu'on va tout de suite rappeler les choses. En mars, il était revenu à la faveur de la blessure au mollet, il me semble, de Karim Benzema. Il était revenu le samedi, donc deux jours après la liste.
Oui, parce qu'à la base, il n'y était
pas. Il n'était pas dans la liste. Il joue deux matchs contre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Il marque deux buts. Il est deux fois titulaire. Il est relancé. Sauf que Didier Deschamps, dès le premier jour du rassemblement, explique que la limite n'est pas sportive. La limite est plus ou moins humaine en disant « c'est pas Karim ». Ou Olivier, c'est plus complexe que ça. Sous-entendu, vous allez donner à un joueur beaucoup moins que ce qu'il avait dans son statut. Et est-il prêt à l'accepter? Si je lis entre les lignes, enfin même pas lire entre les lignes.
Non, parce que là, c'est très clair.
Ouais. Apparaît très clair. Didier Deschamps, alors peut-être que Olivier Giroud dira qu'il est capable de l'accepter.
Mais Didier Deschamps n'y croit pas. C'est ça qui est assez terrible. C'est-à-dire que finalement, le rendez-vous du mois de mars n'a servi à rien. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir rappelé en mars dans ce cas-là? Pour se dire, au cas où, si au mois de novembre, Benzema est blessé, ou Mbappé est blessé, ou Griezmann est blessé, dans ce cas-là, je le rappelle. Moi, c'est ma grande limite aussi, j'ai du mal à le comprendre. Parce que non seulement Giroud est revenu dans le groupe, mais il a été titulaire à deux reprises, devant notamment Wissam Ben Yedder qui a très peu joué. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Wissam Ben Yedder dans le groupe et pas Olivier Giroud. Donc ça, c'est ma toute première interrogation. Ma seconde interrogation, on a toujours dit que Deschamps était un entraîneur pragmatique, etc. Là, pour moi, il démontre à peu près le contraire. Pour moi, qu'est-ce qui se passe si... bon, l'équipe de France part avec ce groupe-là, à la Coupe du Monde au Qatar. On ne le souhaite pas, mais Benzema ou Mbappé se blessent et est absent un ou deux matchs. Donc, on fait rentrer Ben Yedder ou Nkunku dans cette équipe-là. Mais aujourd'hui, l'écart, il est trop grand entre Giroud et les autres pour ne pas lui faire une place dans ce groupe-là. Pour moi aussi, ça signifie quoi? Ça signifie aussi l'échec de Deschamps, parce que si Giroud, se montre désagréable, c'est l'échec aussi du management de Deschamps. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à l'intégrer à ce groupe-là, alors même qu'il a montré qu'il était plus important à cette équipe et au résultat des Bleus, qu'un Ben Yedder qui est transparent depuis qu'il est en équipe de France, qu'il y a Nkunku qu'on aura du mal à sanctionner tout de suite, mais qui, en tout cas sur le mois de mars, a été très moyen, mais on ne va pas lui jeter la pierre. Mais juste si on prend l'exemple de Ben Yedder. Donc voilà, moi, c'est toutes ces interrogations qui font que j'ai du mal à comprendre la décision de Didier Deschamps. Ouais. Voilà.
Ce petit jeu de saute-mouton avec les statuts, Didier Deschamps l'a déjà fait plusieurs fois. Il y a avant l'Euro 2016, où souvenez-vous, il a beaucoup trop de gauchers. Varane se blesse et compagnie. Et je crois qu'il finit, c'est Rami qui revient, je crois, qui est rappelé, parce qu'il est droitier. C'est-à-dire qu'il a fait fi de la hiérarchie qui était devant lui. Souvenez-vous, avant la Coupe du Monde 2014, la hiérarchie est claire, c'est Lloris, Mandanda, Landreau. Mandanda se blesse et out pour la Coupe du Monde. Ruffier est rappelé et passe numéro 2. Donc en gros, il n'a pas tellement de problèmes avec ça, et à la rigueur, ça peut justifier. Ce qui peut justifier aussi, et c'est un peu ce qu'il dit hier en disant « je vais faire aguerrir les jeunes », c'est que dans la première liste de mars, on a les 7 mêmes attaquants qu'il y a jeudi pour les matchs du mois de juin, ces 4 matchs du mois de juin. Donc Didier Deschamps peut très bien dire « non, mais moi j'avais une idée de base, c'était celle-là, Benzema s'est blessé, donc j'ai rappelé Giroud ». Après, comme tu le dis, oui, sur le terrain, ce n'est pas Ben Yedder qui a joué. Donc, c'est un peu particulier et on en était venu à dire, alors il a fini par marquer Ben Yedder, mais de se dire à quoi il sert vraiment Ben Yedder, parce qu'il est performant en Championnat de France. Et bien au-delà, mais en équipe de France, ça ne marche jamais.
Mais tu te souviens qu'on était persuadé que Giroud serait dans la liste?
Moi, je continue à le dire. Pour moi, Giroud, en fait, pourquoi aussi? Parce que je trouvais que ce rassemblement-là, qui va donc durer du 28 mai, il me semble, au 13 juin est un long rassemblement. Il y a 4 matchs. Finalement, c'est quasiment aussi long que ce qu'a fait l'équipe de France au dernier Euro. Ouais. Donc, ça permet de dire, bah, écoute, t'es dans le groupe. C'est la Ligue des Nations. Alors, je sais que Didier Deschamps ne pensera pas comme ça, mais bon, il n'y aurait pas de drame absolu d'être un peu moins performant. De voir Olivier Giroud dans cette.
Ouais, non, mais en plus, avec Giroud, tu n'es pas moins performant. Hein.
En plus, tu n'es pas moins performant. Il ne l'a pas fait, donc ça dit tout simplement que non. Olivier Giroud ne reviendra qu'à la faveur d'une blessure, et même, je vais aller plus loin, il ne reviendra qu'à la faveur de la blessure de Karim Benzema. Le coup dur qu'on ne souhaite évidemment pas. Parce que même si demain, coup dur, Mbappé sort, est-ce qu'il fait rentrer Giroud
dans le groupe? Je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas certain. Voilà. Il y aura des autres profils différents. Je ne suis pas certain, donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est clair et net. C'est au contraire de ce qu'il disait, c'est soit Karim, soit Olivier. C'est peut-être pas seulement lié pour des raisons de caractère et une opposition frontale entre les deux joueurs, j'allais dire. C'est plus lié pour une logique de groupe, parce qu'il a peur. De toute façon, au retour de l'Euro, il faut quand même se rappeler cette interview Didier Deschamps dans l'équipe, où Giroud, globalement...
Oui, il fait porter le chapeau à Giroud.
Ah, il portait tout, il a des larges épaules, mais il prenait tout sur le dos. Là. Donc, je pense que ça n'a pas changé, il a son idée.
Et pourquoi le rappeler en mars, alors? Comment t'es... Moi, c'est ça que je ne comprends pas.
Je ne sais pas.
C'est ça que je ne comprends pas. C'est...
Voilà.
Ok, tu fais porter à Giroud une partie de la responsabilité du fiasco des Bleus à l'Euro. Effectivement, peut-être que Giroud n'a pas eu le bon comportement, et on l'a vu même parfois, ne pas avoir le bon comportement. Ok, tu pars de ce postulat-là. À la limite, tu peux être d'accord ou non, mais là, il y a une logique.
Il y a une logique.
Pourquoi le rappeler au mois de mars? Et pourquoi lui faire jouer tous les matchs, lui faire démarrer tous les matchs? Et donc lui dire finalement, bah, ton statut, quand Benzema n'est pas là, bah, t'es numéro 1. Moi, il y a quelque chose vraiment qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans.
Surtout qu'il dit, jeudi, Didier Deschamps, j'ai besoin des jeunes, j'ai besoin qu'ils s'aguerrissent. Voilà.
Il ne rappelle pas
contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud, largement.
Parce qu'il leur a pris du temps de jeu, quelque part.
Ah bah, il leur a pris beaucoup de temps de jeu, puisque je crois qu'il joue 90 et 65, il me semble. Il joue, voilà. Donc, à un moment, la question de se dire à quoi ça a servi, hormis de le garder. Après, Didier Deschamps, il faut savoir...
Et d'avoir relancé un débat aussi. Parce qu'à la limite, Giroud, c'était plus une question.
Exactement.
Giroud, c'était plus une question. On savait qu'il ne reviendrait plus. Mais là, en le rappelant, tu te recrées un point chaud. Un point chaud.
Et alors qu'il dit justement, après le dernier match contre l'Afrique du Sud, il dit « je ne mets pas Giroud sur le terrain pour me créer un problème ». C'est une solution, mais a priori, c'est vraiment une solution temporaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est étonnant. Mais encore une fois…
Surtout lors de deux matchs amicaux, Maxime, je te coupe beaucoup.
Oui,
mais surtout.
Oui.
Ah, oui. À la limite, si tu as une qualification pour le Mondial à aller chercher, tu comprends que tu rappelles Giroud, tu as quelque chose de vital. Là, excusez-moi, mais un match face à l'Afrique du Sud, à Côte d'Ivoire…
Oui, il y avait d'autres manières de…
On les a déjà oubliés. Enfin, ouais. Voilà. Donc, pourquoi? Encore une fois, pourquoi Deschamps, il est assez… C'est pas qu'il est assez lisible, mais disons qu'il suit tout le temps des logiques… qui sont assez évidentes. Là, pour moi, c'est un grand trou noir, cette histoire.
Après, encore une fois, la seule logique que je peux lui garder à Didier Deschamps sur cet enchaînement de sélections, c'est de dire qu'il a pris les mêmes noms.
Oui.
C'est son groupe, il y a Diaby, il y a Kompany, voilà. Il n'y a pas Giroud. Giroud, il est venu pour remplacer Benzema. Voilà. Mais n'empêche que ça dit autre chose, parce qu'à rebours, maintenant, quand on écoute tout ce qu'il a dit pendant tout ce rassemblement, en gros, ça ne change rien, nanana. Enfin, en gros, il l'a laissé finalement sous-entendre. Et nous, et moi le premier, ai voulu croire qu'un mec qui revient, qui marque deux buts, qui est utile comme ça, avec toujours ça, un rôle différent, un profil différent, ça peut être utile. Voilà. Donc ce que ça dit là, c'est que d'ici la Coupe du Monde, il y a encore un rassemblement en septembre, qu'a priori, sauf si Benzema n'est pas là, on ne le verra pas. On fera peut-être un petit faux suspense autour d'Alizé 23. Mais s'il est dans l'état actuel des choses, il n'y sera. Il n'y sera pas, absolument.
Et j'espère que Didier Deschamps ne regrettera pas et les Bleus ne regretteront pas l'absence de Giroud. On passe au troisième sujet, Maxime. On va parler Ligue 1 parce que finalement, tout se joue en cette 38e journée. Enfin, pas tout, puisque Paris est déjà assuré d'être champion. Mais à la deuxième, troisième place, se joue quand même une partie du destin de l'Olympique de Marseille. Deuxième ou troisième, ou quatrième encore. Hein, c'est encore possible d'être quatrième. Marseille reçoit Strasbourg et Monaco a 3 points d'avance. Est-ce qu'on va assister samedi au dernier match de Sampaoli avec l'Olympique de Marseille? Sampaoli qui a mis une petite pression à ses dirigeants en conférence de presse, c'était jeudi, si je ne dis pas de bêtises, hein, en leur disant, il y avait un sous-texte en disant qu'en gros, Il aimerait bien que ce soit un petit peu, que l'effectif soit un petit peu renforcé. Mmh. Il aimerait surtout savoir avec quelle force il abordera la prochaine saison. Alors, ça dépendra beaucoup des résultats de samedi, si Marseille est qualifié directement ou non pour la Ligue des Champions. Mais nous, ce qui nous intéresse ce vendredi avec Maxime, c'est de savoir si Marseille doit continuer à faire confiance à Sampaoli. D'un point de vue déjà très objectif, du strict point de vue des résultats, la saison de l'OM, c'est 3e ou 2e ou 4e de Ligue 1. Donc ça, évidemment, ça aura un impact. Mais disons qu'on en est là. Éliminé en phase de groupe de la Ligue Europa, demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence et quart de finaliste de la Coupe de France. Le bilan, je vais te laisser le juger, Maxime. Et après avoir jugé ce bilan, nous dire si, selon toi, Sampaoli doit ou non rester sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.
Déjà, je suis très étonné de sa sortie de jeudi. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous lire ce qu'il dit. Est-ce qu'on veut la Ligue des Champions pour l'argent ou pour y être compétitif? Ce qu'il y a de plus important à savoir pour le président, le propriétaire et le coach, savoir pourquoi on se donne cet objectif. Déjà, je trouve que c'est assez malvenu d'annoncer ça deux jours avant le dernier match de championnat, alors que votre équipe vient de dilapider un matelas assez confortable. Il y a un mois, jour pour jour, ma dernière émission ici, l'OM avait 6 points d'avance. Nickel, deuxième place, etc. Alors, on peut prendre du recul et de se dire que être troisième du championnat, sur un championnat, c'est pas infamant. Le problème, c'est, j'ai envie de dire, le déroulé et ce qui est en train de gâcher l'OM. Parce que la deuxième et la troisième place, c'est évidemment pas la même chose. Et le mercato, il aura beau rôle de dire il faut recruter. Le problème, c'est que si vous êtes troisième, vous devez attendre le barrage pour savoir si vous êtes en Ligue des Champions. Et qu'il y a un manque à gagner de 30 à 50 millions, évidemment, pour un club comme l'OM. C'est compliqué. Mmh. Alors, je ne vous parle pas de la quatrième place, ce serait une catastrophe absolue. Moi, ce qui me dérange, on va dire, c'est que là, il est en train de mettre la pression sur son président, mais il doit des comptes aussi à son président. C'est-à-dire que cette petite dégringolade, elle est aussi de son fait. L'OM a passé sa saison à rater les virages importants. L'OM a fait une saison qui, encore une fois, comme tu l'as dit, sur la longue distance, est plutôt réussie.
Moi, j'ai rien dit pour l'instant.
Non, mais tu as dit au début, tu avais fait le bilan.
Oui, mais c'est un bilan. J'ai donné le bilan objectivement.
Mais moi, le problème que j'ai, et je pense comme beaucoup de suiveurs de l'Olympique de Marseille, c'est que ça a été une équipe emballante. Souvenez-vous, Montpellier-OM, c'est une équipe renversante, ça a été une équipe fermée à double tour.
Chiante, oui.
Ça a été une équipe chiante. Le Lens-OM n'empêche que c'est sûrement leur masterpiece.
Feyenoord, c'était chiant à mourir.
Et ce que j'ai vu, c'est que c'est une équipe qui a joué sans attaquant la plupart du temps. Et je suis désolé. Quand je vois la compo de Rennes-OM, c'est une équipe qui est faite pour tourner en rond, en fait. Et quand vous tournez en haut, vous n'allez pas au but, et quand vous n'allez pas au but, vous n'en marquez pas. Et ça, c'est dramatique parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas toujours maximisé ses forces. On le voit dans la gestion des gardiens de but où finalement, il a remis Mandanda. Pourquoi ? Alors oui, il y a eu des erreurs de Lopez, mais on ne traite pas les gardiens de but de la même façon. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu faire jouer Mandanda toute la saison ? Mandanda, il a appris à sortir, à jouer à 30 mètres de son but, à 40 mètres, à faire des ouvertures et à plutôt bien se débrouiller avec son pied, finalement, alors qu'on ne pensait pas capable de ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'est pas lisible, qui va aussi incarner le résultat final de l'OM et d'annoncer... Ça me fait penser encore une fois aux joueurs qui disent « Je m'en vais si on ne joue pas à la Ligue des Champions ». Quand on est entraîneur, on ne doit pas avoir ce discours-là parce que je ne suis pas sûr que ça soit bien répercuté et bien perçu aussi bien par les joueurs que par le président.
Je suis d'accord avec toi sur sa sortie en conférence de presse. Sinon, moi, je suis un peu moins sévère que toi sur Sampaoli, sur la saison. Si on avait dit, en début de saison, en regardant l'effectif de l'Olympique de Marseille, qui est bon pour la Ligue 1, qui n'est pas extraordinaire, si on avait donné ce bilan-là, je pense que 80% du Vélodrome aurait été satisfait. Je pense. C'est-à-dire que Marseille termine deuxième ou troisième, c'est plutôt l'objectif visé et raisonnablement plutôt plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer. Quand on prend les effectifs, Monaco, Lyon, même Rennes, est-ce que Nice, dans voir une certaine
nice,
mesure,
ouais,
voire
ouais.
Nice, est-ce que c'est beaucoup moins fort que l'OM? La réponse est que c'est peut-être même un peu plus fort que Marseille, en quantité notamment. Et moi, je trouve que Sampaoli, il a plutôt fait progresser cette équipe-là. Je pense à des joueurs, je pense à Saliba, je pense à Guendouzi, je pense à Valentin Rongier. Alors, bien sûr, il y a eu des échecs, il y a eu l'échec Milik notamment, mais je trouve, moi, que ce coach-là a plutôt fait progresser Marseille, l'a plutôt fait rentrer dans les clous aussi. Finalement, il y a eu une épopée européenne. Alors, ce n'est que la Ligue Europa Conférence, et je l'ai dit ici, il y a aussi un échec en Ligue Europa y a quand même eu ça. Il y a une bataille pour le podium de Ligue 1 jusqu'à la 38e journée. Donc, au final, il est plutôt dans les clous. Il a ravivé une certaine flamme au Vélodrome quand même. Et je pense que les supporters sont plutôt derrière lui qu'hostiles. Et ça compte dans un contexte comme Marseille. C'est pas bien ça, on est d'accord.
Ils sont pas hostiles, mais je pense qu'il est quand même un peu clivant.
Il est un peu clivant, ça je suis d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que finalement, son bilan est plutôt moyen plus honorable. Et moi, je pense que ce serait une erreur de s'en passer pour la saison prochaine.
Mais à la 37e journée et à la 3e place, en partant de la première, oui, c'est honorable. Parce que tu as dit les clubs, Lyon qui aurait dû sans doute être sur le podium. Ouais. On peut le mettre deuxième. Voilà.
Lyon qui a un meilleur effectif que l'OM de Marseille.
Et l'OM partait pas forcément, j'allais dire, podiumable. Maintenant, je le répète, c'est sans doute injuste, mais la dernière impression est souvent celle qui reste. Et l'impression, c'est qu'on est en train d'avoir un gâchis. Je pense que Longoria doit se dire, là, j'avais 30 à 50 millions qui rentraient dans les caisses, ça changeait beaucoup de choses. J'ai aussi un bon attaquant, déjà, dans mon équipe qui ne joue pas. En fait, ce que je veux dire, c'est un peu, ça fait un peu politique, j'exagère, mais peut-être un peu politique de la terre brûlée.
Et alors, les virages, tu peux les analyser sous le prisme Sampaoli, tu peux aussi les analyser sous le prisme de la... De la fragilité de l'effectif qui est très court et que dès qu'il y a un joueur qui se blesse, surtout quand c'est Dimitri Payet,
c'est
plus du tout la même
chose. Ça, c'est très clair. Mais
et après, que Marseille manque évidemment de réservoir.
Mais Payet, c'est peut-être presque l'exception qui confirme la règle parce qu'il a un rôle à part, il a un statut à part. Et c'est vrai que quand il se blesse en Coupe d'Europe, notamment, on voit que derrière, il n'y a plus personne pour prendre le flambeau.
N'empêche tu payes aussi contraint, j'imagine.
N'empêche que devant, il y a des gens pour mettre des buts et on ne les voit pas souvent.
Je sais que ça ne plaît pas,
équipe sans attaquant, ce n'est pas possible, surtout dans des moments comme ça. Et je trouve là où il est un
peu... Mais alors, toi, t'es Longoria, tu le dégages ?
Non, mais je lui dirais comme...
Ah, mais c'est parce que...
Non, parce que comme tu l'as dit, s'il fait troisième, il n'a pas échoué. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est en train de demander des moyens pour un objectif qu'il n'a pas atteint pour l'instant. On fait quoi si dimanche matin, l'OM est quatrième, il va aller voir le président, lui dire il me faut des moyens pour la Ligue des Champions. Oui, mon coco, tu n'y es pas en Ligue des Champions. Alors que tu étais assis quasiment les deux fesses sur le siège de la deuxième place. Voilà. Et quoi qu'il arrive, là, il s'est mis dans une situation, si l'OM ne reprend pas Monaco, d'être de toute façon en attente. Il va se retrouver dans une problématique qui va obliger Longoria, qui aime bien ça sur le marché des transferts, à trouver des solutions pour faire progresser l'équipe sans être certain de la suite. C'est-à-dire qu'au mois d'août, l'OM peut se retrouver en barrage face
au Benfica.
Benfica.
Bon, ciao.
Ouais, ce sera compliqué parce que là, il n'aura pas pu investir en attendant. Alors moi, je sais que je pense pas beaucoup de bien des barrages aussi parce que ça fout le bazar dans une équipe. Et soit vous êtes qualifié, soit vous n'êtes pas qualifié. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire ? Même lui-même, Sampaoli, on peut se poser la question. Si son président vient lui dire, écoute, oui, moi j'aurais bien aimé nous renforcer, sauf que là, je ne peux pas parce que l'argent, c'est que l'OM a des soucis déjà, le TAS a permis de lever pour l'instant l'interdiction de recrutement. L'OM n'est pas dans un cercle vertueux financier, donc l'OM ne pourra pas prendre des risques fous. Et le faire sans aller en Ligue des Champions, sans être sûr d'y aller, c'est compliqué. Je ne suis pas sûr que Longoria le fera. Voilà. C'est pour ça que moi, ce que je repense à Sampaoli, encore une fois, il y a le timing et de ne pas se rendre compte de la situation alors qu'il y a un mois, c'était quasiment réglé. Enfin, personne ne pensait que l'OM serait aujourd'hui troisième. Alors évidemment, il y a eu Monaco, mais l'OM a eu son destin entre les mains tout ce temps-là.
Bon, en tout cas, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce qu'on parlera de ce bilan de Ligue 1, on parlera de Mbappé.
Ah oui, ben ça peut partir.
On parlera de la finale Ligue des Champions qui aura lieu à quelques kilomètres d'ici.
D'ailleurs, on sera peut-être au Stade de France.
Dès vendredi ?
Bah oui.
Ouais, on pourrait faire la stream team du Stade de France. Ouais, c'est une bonne idée, Maxime.
Il faudra voir la température. Mais...
Maxime, tu vois, lui c'est le boss, c'est l'écufosi. Si demain il dit j'ai envie de faire la stream team au Maldives, on va faire la stream team au Maldives, c'est comme ça.
Mais elle sera plus tard en revanche, puisqu'on attendra les conférences de presse.
C'est vrai.
Pour avoir un peu de biscuit à vous.
C'est
donner.
Vrai. Exactement. Une magnifique finale de Ligue des Champions. Idéal non, parce qu'il manque un club français. Ouais. Mais Real Madrid-Liverpool, c'est sympa. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense qu'on aura du sujet. On aura du sujet la semaine prochaine. On aura beaucoup, beaucoup de sujets.
Mais il va falloir en profiter parce qu'après, ça va être plus compliqué.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On remercie Sébastien Bedieu-Manet, Quentin Guichard au visuel, Maxime Dupuis.
Il a son casque comme ça, il est en train de mixer un peu le son.
Exactement. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.